Alors vous voyez, ce dimanche est consacré à des images pastorales qui sont souvent émouvantes, mais qui n'éveillent pas forcément l'intelligence ou en tout cas l'esprit critique. Mais il faut se méfier quand même des histoires de brebis. Si elles portent à l'attendrissement naïf, si cette imagerie pastorale endort l'attention avant même qu'on ait entrepris de compter les moutons, il faut faire attention. Il faut faire attention aux histoires de brebis. Car dans l'imagerie biblique, les brebis, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple que Dieu s'est choisi. Mais il faut se méfier des brebis quand elles sont bibliques. Parce que, en fait, ces bêtes-là, dans la réalité, ne se comportent pas idéalement comme on le raconte. Et là, je me permets de faire, une fois n'est pas coutume, à l'oratoire, une petite anecdote. En fait, c'est une anecdote qu'une collègue pasteur m'a racontée. C'est une aventure qui lui est arrivée. Donc voici pour preuve l'histoire de deux pasteurs, des pasteurs de paroissiens, hein, pas des pasteurs de brebis, qui ont été abusés par une affaire de moutons. Une femme pasteur, donc, fille de son père, tout aussi pasteur, passe quelques jours en montagne dans le chalet familial. Par un après-midi, elle s'échappe pour un long périple en solitaire et chemin faisant, elle tombe en arrêt, et inévitablement, vous pouvez le comprendre, en dévotion, devant un mouton. Elle lui parle, elle bétifie comme il se doit, mais elle se voit rapidement cernée par un troupeau impressionnant. Elle réussit à se dégager, mais le troupeau la suit comme un seul homme. Alors pour s'en débarrasser, il n'y a plus qu'une issue. Se diriger vers le village pour trouver un berger de fortune, et qui sait, le vrai berger qui les délivrera. Là, on lui indique une ferme où le propriétaire lui explique que mouton, brebis, agneau l'ont suivi parce qu'elle est arrivée au bon moment. Le moment où habituellement le berger va les chercher. Alors elle rentre au chalet familial et à peine arrivée chez son père, celui-ci se précipite vers elle, l'œil humide, pour lui dire « Tu sais, je viens d'assister, tout à l'heure j'ai assisté à une scène biblique émouvante. Là-bas, tu vois, dans la vallée voisine, en contrebas, un troupeau s'est rassemblé en un clin d'œil autour de son berger, où je pense qu'il devait sans doute se faire reconnaître par sa voix. » Alors vous voyez, ces histoires bibliques peuvent parfois nous endormir, et peut-être aussi qu'on est habitué à ces histoires et qu'on ne les lit plus tout à fait. Je fais ce détour par cette petite histoire pour nous sortir de l'enclos de l'imagerie pastorale, toujours un peu convenue. L'image du Messie en tenue de berger véritable pour le peuple d'Israël ne nous étonne plus. Mais on peut aussi dire que ça ne nous parle plus vraiment, surtout pour nous, citadins. Notre écoute glisse sans nous bousculer. Et comme pour cette anecdote, il faudrait que nous soyons attentifs à ce qui peut nous arrêter. Et je vous propose d'abord de voir ce qui ne va pas tout à fait dans le sens de ce qu'on attendrait, ce qui ne marche pas dans cette métaphore des brebis et du berger. Alors revenons au texte, qui est confus, qui est riche mais assez confus. Il est vrai que ça bêle de partout dans ce texte. Les brebis sont dispersées à tout bout de phrase, et tout tourne autour d'elles. Le meilleur comme le pire. Mais ici, c'est le pire qui domine. Avec ses voleurs, ses brigands et ses loups, on perçoit bien le climat d'hostilité. Les brebis sont l'enjeu d'un combat de rivaux. Elles stimulent la convoitise de ceux qui veulent et peuvent se faire passer pour des bergers. Ensuite, quelque chose ne semble plus aller de soi. Si on veut absolument s'installer dans une rêverie bucolique, on est bien embarrassé par cette succession d'images qui ne s'enchaînent pas de manière cohérente. Le berger des brebis entre par la porte que lui ouvre le portier, mais pour dire plus loin que c'est lui la porte des brebis. Et c'est bien là que l'attention trébuche. Pour retrouver l'image plus prévisible et rassurante du berger dans la suite du texte, il faut passer par cette porte. Curieux quand même cette porte. Rien ne nous dit qu'elle est fermée. Les brebis vont et viennent dans les deux sens. Et pourtant, là aussi, c'est étrange, les voleurs la contournent. Alors vous me direz, quel intérêt à enfoncer une porte ouverte? En tout cas, il va nous falloir forcer la signification de cette porte. Enfin, il y a quelque chose aussi qui cloche, un autre embarras. Passer par cette porte-là, c'est pour les brebis la garantie d'une vie en abondance. Alors vous pouvez le vérifier, ça ne leur apporte rien en matière de sécurité à ces brebis. Parce que justement, les voleurs sont attirés par l'enclos. C'est même la clôture qui facilite leur tâche. Parce qu'elles sont regroupées, les brebis qu'on imagine transies de peur, elles ont l'impression d'être à l'abri et en même temps elles sont offertes aux intentions malveillantes qui les environnent. D'ailleurs, remarquez que par la suite, l'enclos n'empêche pas de voir venir le loup, au contraire. Alors résumons ce fatras de données, d'images qui ne s'emboîtent pas tellement bien les unes avec les autres. Une porte berger ouverte mais contournée, une porte qui n'est pas une garantie contre tout danger, et une porte passage qui apporte la vie en abondance. Bizarre. Le mystère s'épaissit. On comprend pourquoi la porte n'est pas l'image que nos catéchismes retiennent volontiers pour désigner le Christ. Mais il faut sans doute en passer par là pour accéder à une autre signification et entrevoir un autre ordre de réalité. En effet, si on regarde bien, cette porte, elle sert au discernement. Car manifestement, ça se passerait plutôt la nuit. C'est la nuit que les brebis sont rassemblées dans un enclos. Elle sert donc au discernement, parce que justement, discerner, c'est lorsqu'on ne voit plus vraiment avec le regard naturel. Alors, éviter cette porte, c'est signifier l'importance qu'elle a. Passer par elle, comme la contourner, c'est recevoir sa qualification. C'est-à-dire qu'on est soit brebis, soit faux berger, soit loup. Cette porte, elle désigne indirectement le danger. Alors, bon, dans le contexte, je ne veux pas le rappeler parce que maintenant tout le monde sait ce contexte joannique de polémique avec les pharisiens. Ce sont des docteurs de mensonges, les faux bergers qui avancent masqués ou les imposteurs qui escaladent par l'autre côté. Alors, si les faux bergers évitent cette porte, c'est bien parce qu'elle risque de les démasquer comme adversaires d'une part et comme faux bergers d'autre part. Cette porte sert à discerner ce qui se cache. Il faut dire que ces imposteurs opèrent de nuit quand les risques sont au maximum et que les brebis sont transies de peur. Elles ne sont pas en mesure de discerner la nature du danger, elles n'y voient rien. Alors ces faux bergers spéculent sur la peur, ils utilisent le besoin de sécurité du troupeau. Ils avancent, bardés de fausses bonnes intentions, mais ils ne se laissent pas connaître. Il reste, dit le texte, des étrangers. Et surtout, alors ça c'est très intéressant, surtout ces faux bergers, ils ont eux-mêmes peur. Dès que le danger arrive, avant même qu'un prédateur cherche à s'introduire, ils se défilent pour conserver leur vie. Finalement, c'est l'enclos qui devient dangereux. L'enclos... En fait, dans le texte, c'est le terme qui servait dans la Septante à désigner la cour du temple. C'est un espace de stabilité qui devient un lieu précaire. C'est un espace de repos qui ne protège pas des exactions et des tentatives de séduction. Tentatives de séduction qui peuvent être très subtiles. L'enclos qui sert à rassembler et à protéger n'est même pas une garantie contre le rapt ou la dispersion du troupeau. Alors, les faux bergers seraient-ils donc ceux qui savent parler au bon moment, comme cette collègue pasteur qui est arrivée au bon moment, au moment où on a besoin d'être rassuré, au moment où on voudrait coûte que coûte être débarrassé de nos angoisses? Peut-être sont-ils ceux qui arrivent au bon moment quand on se sent mourir de peur, quand on cherche un guide rassurant qui va savoir nous dire ce qu'on veut entendre? Les faux bergers tirent profit du besoin légitime de sécurité qui nous habite tous. Et pas besoin pour cela de pointer du doigt l'actualité internationale ou même nationale. Il y en a pour chacun de nous. Chacun de nous appelé par son nom et reconnu comme être unique. Chacun de nous a des enclos où il fuit où on fuit ce qui nous terrorise. Il y a pour chacun de nous des nuits où on se presse contre les autres, contre l'autre, sans trouver la paix. Et pour chacun de nous, il y a cette expérience où on a troqué notre liberté pour une sécurité trompeuse. A contrario, la porte qui est contournée, elle, elle désigne le vrai berger. D'après les témoignages historiques, la porte de cet enclos en pierre n'avait pas de battant. Il n'y avait en fait pas de porte, c'est-à-dire une porte qui se ferme ou qui s'ouvre. La porte, c'était le berger couché de tout son long, le berger qui veille, qui barre l'entrée de tout son corps pour éviter le passage des prédateurs. Il faut lui marcher dessus pour pouvoir rentrer dans l'enclos. La porte est ainsi le lieu du combat sans merci que le berger est prêt à livrer pour défendre son troupeau. On comprend pourquoi les voleurs ne tiennent pas à se mesurer à une telle détermination. Pourquoi ils la contournent ? Alors le berger, le vrai berger, c'est le vrai propriétaire. Et lui, il veut la sécurité et la vie de ses brebis. Et pour cela, il est prêt à se dessaisir de sa vie, en rigueur de terme, à la déposer ou à l'exposer. La sécurité repose sur la capacité du berger à perdre la sienne de sécurité, à prendre tous les risques, mort comprise, pour défendre les siens des faux bergers. Alors c'est une sécurité qui présente des garanties exceptionnelles, car celui qui l'assure a si peu peur pour lui-même qu'il ne met même pas la main sur son troupeau. Il ne cherche même pas à exercer une emprise en imitant les initiatives et les désirs de ses bergers, de ses brebis. Et surtout, il n'a même pas peur de tout perdre. En laissant la porte ouverte, ouverte au libre passage de ses brebis, il n'élimine pas les dangers, il ne cherche pas le risque zéro, mais il leur offre une liberté qui repose sur son pouvoir à lui. Pouvoir de tout donner pour eux, jusqu'à sa propre vie, mais aussi pouvoir de reprendre cette vie, ce qu'on appelle la résurrection. Pas de sécurité pour les brebis en dehors du désir de sécurité pour elles, et surtout en dehors des risques personnels qui ont été pris pour elles. Elles vont, elles viennent, libres, parce que devant elles et avant elles, le berger a librement exposé sa vie. On pourrait résumer par cette formule: à berger libre, brebis libre. Alors qui peut garantir à la fois la sécurité et la liberté en dehors de celui qui est la vie ? Qui peut se permettre à la fois ce souci de chacun et cette latitude offerte à chacun ? Certainement pas une capacité humaine. Et là, il n'y a pas à se tromper. On ne peut passer que par cette porte-là, dans un sens comme dans l'autre, au gré des circonstances et au gré de nos désirs. Il n'y a pas à se tromper. On ne peut être que brebis si on veut une vie véritable, exposée certes comme celle du berger, mais abondante. Car il n'y a pas d'autre berger comme celui-là. Alors comment le reconnaît-on ? On le reconnaît à cette voix qui sait nous distinguer dans la masse, dans la foule, parmi mille autres. On sait le reconnaître à cette vie abondante. Et cette vie abondante, on lui doit parce qu'il nous pousse à nous exposer à toutes les rencontres, les meilleures comme les pires, mais assurer que quelqu'un se donne pour qu'on vive. C'est celui qui, dans les évangiles, ne cesse de nous dire « Ne crains pas, va désormais, ne pêche plus par peur d'avoir peur. » Et c'est comme s'il n'y avait plus de sécurité possible qu'à la condition qu'il y ait liberté du risque, mais d'une liberté qui n'est pas celle qu'on croit. Il s'agit ici d'une liberté qui précède, qui passe devant, et à la suite de laquelle on peut aller prendre des risques. Car ce qui distingue le vrai berger des usurpateurs, c'est l'absence de peur, comme cette porte qui se reste ouverte. Ici, sécurité et liberté ne sont pas en concurrence. D'habitude, on ne les associe pas. On perd l'une pour tenir l'autre. Ici, on n'instaure pas des couvre-feux, on ne contrôle pas les mouvements des brebis, on n'impose pas une surveillance inquiète, On ne se fait pas un sang d'encre pour ceux dont on a la responsabilité. Non, ici, le Christ se fait passage entre les deux. Porte battante qui ouvre indifféremment sur la sécurité et sur la liberté. Car lui, il n'a peur ni pour lui ni pour nous. Quel souffle de liberté que cette confiance et quelle sécurité que cette assurance. Alors cette porte nous fait entrevoir deux réalités nouvelles. Une sécurité qui n'est pas exempte de danger et une liberté qui n'est pas l'exercice aléatoire d'une volonté abandonnée à elle-même. Toutes les deux, liberté comme sécurité, sont reçues. Reçues du seul vrai berger, le bon, le beau, on pourrait dire, d'après le texte grec. Peu importe l'heure à laquelle il arrive, et qu'importe les circonstances où il appelle, les brebis ne s'y trompent pas. Elles qui n'ont plus un comportement moutonnier, elles n'attendent plus tout des autres, elles ne vibrent même plus au discours plus ou moins messianique. Elles ne se laissent plus abuser non plus par des promesses sécuritaires ou par ces contrefaçons de la paix. Elles suivent le berger, chacune pour son compte, à l'oreille et à la confiance qui leur est accordée et à la confiance qu'elles mettent en Christ, lui qui n'est que confiance dans son Père. Amen.